Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. Merci d'être là et bien le bonjour à vous tous et à vous tous si vous venez de nous rejoindre. Je vous rappelle que notre vétérinaire est là, à votre disposition, notre Miss Veto, qui sait...
Le veto.
Ah bah oui.
Ah bah oui.
Comme tous les dimanches matins.
Eh oui.
Vous pouvez pas être à la fois sur... sur l'estrade, sur le podium des Miss et être à la radio dimanche matin.
Voilà,
ça, c'est pas possible.
J'ai choisi mon camp.
Vous avez choisi votre camp et vous avez bien fait, Laetitia. Et je vous en remercie. Pour joindre notre veto, donc le 3216 ou bien animaux@rmc.fr, vous pouvez poser votre question. Si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas le numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Laetitia, pour cette deuxième partie, tout à l'heure, nous découvrirons une association d'aide aux animaux qui a été créée par un ancien SDF.
Et qui vient justement en aide aux chiens des SDF. Il nous racontera son histoire, sa belle histoire.
Nous aurons aussi tout à l'heure Nicolas Vallier, vous le connaissez, aventurier du Grand Nord, qui vient de sortir un livre et qui est aussi le réalisateur, entre autres, de Belle et Sébastien.
Qui passera demain d'ailleurs sur M6 si vous n'avez pas vu le premier opus.
Et puis Laetitia, je sais que vous aimez les cadeaux high-tech parce que vous maîtrisez la high-tech. Je sais que vous aimez ça. Et j'ai un cadeau pour vous tout à l'heure.
Pour
dans
moi
quelques instants. Enfin, pas pour vous. C'est pas pour vous, je me suis trompé. Je suis désolé, c'était une mauvaise... Je me suis un peu trop avancé. J'ai une montre connectée.
Vrai.
C'est pas pour vous. Non, ça sera pour les auditeurs. Et je vais vous offrir ce cadeau dans quelques instants. Voilà. Par SMS, restez à côté du téléphone portable. Bienvenue en tout cas à vous toutes et à vous tous. Et nous accueillons tout de suite notre premier invité, l'historien Éric Baraté, Laetitia. Éric est là, bonjour.
Bonjour. Et nous allons parler des bêtes et des dieux. Et des bêtes et des dieux, c'est justement le titre de votre livre qui vient de sortir aux éditions du Cerf. Vous êtes historien et spécialiste des relations entre les hommes et les animaux. Alors dans ce livre, vous étudiez les relations entre pendant les 3 millénaires, entre les animaux et les religions. Et on voit d'ailleurs dans ce livre que les relations entre animaux et religions ont évolué avec les mentalités. Alors commençons, parce que c'est Noël bientôt, on va commencer par le christianisme. Faut savoir que les animaux sont très présents dans l'Ancien Testament, avec notamment l'épisode du déluge avec Noé. Mais tout le temps, ils restent inférieurs à l'homme, alors que dans d'autres religions, je pense plutôt aux religions, par exemple l'Égyptien ancienne, les animaux, eux, étaient déifiés.
Oui, alors effectivement, l'Ancien Testament met une rupture dans cette déification, puisque on veut à la place que les hommes vénèrent un seul dieu et non pas des dieux animaux. En même temps, au début de l'Ancien Testament, il n'y a pas de grande différence entre les hommes et les animaux.
Oui.
Et la différence va être installée petit à petit, essentiellement sous l'influence de la philosophie grecque, à partir du début de notre ère.
Alors, j'ai lu aussi dans votre livre que dans l'Ancien Testament, ils ont quand même une âme pour les chrétiens. Et une âme qu'on retrouve dans le sang, si j'ai bien compris.
Alors, dans l'Ancien Testament, effectivement, il ne faut jamais manger l'âme, parce que le sang représente l'âme. Et le sang donc doit retourner à Dieu, puisque c'est Dieu qui a donné le souffle créateur, le souffle de vie. Et cette idée d'âme, elle va rester dans le christianisme jusqu'à nos jours. La seule différence, c'est quelle est la nature de l'âme que l'on va attribuer aux animaux. Et ça dépend beaucoup selon les périodes. Il y a des périodes où on veut bien leur accorder une âme immortelle. La plupart du temps, on leur accorde plutôt une âme matérielle et mortelle, très inférieure à celle de l'homme.
Il y a l'âme des animaux et l'âme de l'homme, c'est ça?
Voilà, et en fait, ce n'est pas marqué noir sur blanc dans la Bible, cette différence. Cette différence, elle est créée petit à petit sous l'influence de la philosophie grecque, parce que c'est dans la philosophie grecque qu'on trouve cette différence de nature entre l'âme de l'homme et l'âme des animaux.
Alors parlons de Noël, parce que bon, Noël c'est qui commémore la naissance de Jésus, donc la crèche, dans la crèche on a l'âne et le bœuf. Alors pourquoi ces animaux, que représentaient-ils?
Alors ils ne sont pas évoqués dans les évangiles,
oui.
Mais il y a des prophéties dans l'Ancien Testament, il y a deux prophéties qui évoquent que Jésus sera... que le prophète sera un jour entre un âne et un bœuf, et que l'âne et le bœuf le reconnaîtront. Et donc c'est cette interprétation de ces deux prophéties qui vont faire apparaître l'âne et le bœuf dans les crèches autour du 4e siècle. Alors qu'est-ce qu'ils représentent? Ben justement là, les interprétations ont beaucoup varié, parce que comme il n'y a pas de texte net là-dessus, alors longtemps on a pensé qu'ils représentaient la déchéance de l'homme. Hein, l'homme du péché originel qui avait été chassé du paradis terrestre et qui représentait finalement, qui était devenu des bêtes. Et donc Jésus tombait ou naissait au milieu de bêtes, et en même temps ces animaux annonçaient ce que l'homme allait devenir, c'est-à-dire il y allait y avoir un rachat par l'arrivée du Christ. Et saint François d'Assise, lui, développe une autre approche.
Qui aimait bien les animaux.
Qui aimait beaucoup les animaux, oui. qui développe ce qu'on pourrait appeler un vrai christianisme biblique, qui n'est pas influencé par la philosophie grecque.
On dit que c'est le saint des animaux.
C'est le saint des animaux, et lui impose plutôt l'idée que, finalement, l'âne et le bœuf représentent la création, toute la nature qui va être sauvée par l'arrivée du Christ.
Et pourquoi ces espèces en particulier?
Alors, parce que c'était les espèces les plus précieuses pour les hommes. L'âne et le bœuf servaient à porter, à traîner. Mmh. C'était, j'allais dire, les tracteurs de l'époque. Hein,
donc, c'est sûr, vous n'avez pas l'automobile, comme on dit.
Voilà.
Le mouton aussi, le mouton, l'agneau, sont très présents dans pas mal de religions actuelles que l'on connaît. Donc, pourquoi?
Eh bien, parce que c'est les trois religions révélées, le christianisme, le judaïsme et l'islam, ont le point commun d'être nés à peu près aux mêmes endroits, hein, dans le Proche-Orient, et auprès de populations essentiellement de nomades et de pasteurs, de bergers. Et le mouton était évidemment un animal important. Et c'est le point commun de ces trois religions, c'est qu'il y avait l'idée de sacrifier des animaux en hommage au Dieu. Mais en même temps, l'Ancien Testament et le Coran font une très forte rupture par rapport à ce qui se passait auparavant. Auparavant, on sacrifiait énormément d'animaux. Et là, l'idée, c'est finalement d'en sacrifier, mais le moins possible. Il y a une espèce de retenue qui apparaît par rapport aux religions antérieures. Et le christianisme va encore plus loin, puisque il n'y a plus de sacrifice d'animaux. C'est Jésus-Christ qui prend la place de l'agneau. Et d'ailleurs, on va garder ce symbole de l'agneau pour dire Jésus-Christ.
Merci beaucoup, Eric.
Merci beaucoup. Alors, je vous conseille vraiment de lire ce livre, hein,
Des bêtes et des dieux,
ouais. Aux éditions du Cerf, qui justement relate ces relations des animaux entre les animaux et les religions et leur place. Vous parlez aussi dans ce livre des Amérindiens qui eux placent les animaux autre. C'est vraiment autre chose. Hein, c'est la place des animaux, c'est vraiment dans la magie. Donc, c'est très très intéressant. Merci.
Merci beaucoup, Eric.
Merci, au revoir.
Il est 7h18, Laetitia, on va poursuivre ce rendez-vous animaux. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous aurons avec nous Nicolas Vanier. Oh oui, vous le connaissez, Nicolas Vanier. C'est un aventurier, c'est un réalisateur de films à succès, hein, comme par exemple Belle et Sébastien et plein d'autres. Mais c'est aussi l'auteur de livres, et notamment La Grande Course. Il viendra nous en parler dans quelques instants. Et puis, nous découvrirons aussi une association d'aide aux animaux qui a été créée par un ancien SDF. Il sera aussi avec nous au téléphone. Je vous rappelle le numéro au téléphone pour joindre notre vétérinaire 3216 ou bien le mail animaux@rmc.fr, et je ne le répéterai jamais assez, si vous nous joignez par mail, si vous nous envoyez un petit mail, n'oubliez pas votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle dans la foulée et vous participez à l'émission très rapidement. À tout de suite, c'était RMC.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h21, c'est RMC, le week-end des experts. Avant de poursuivre ce rendez-vous dédié aux animaux, en ce dimanche matin, on va jouer ensemble.
Le Grand Noël RMC, spécial week-end avec Cdiscount.com.
Si vous êtes un fidèle d'RMC, vous le savez en ce moment, RMC vous offre des cadeaux à longueur de journée, tout au long de la semaine, mais aussi le week-end, dans le week-end des experts. Et ce matin, les amis, j'ai le plaisir de vous offrir, écoutez bien, une montre connectée Sony pour tout simplement avoir les notifications de votre téléphone portable sur votre poignet, pour pouvoir installer des petites applications, etc., pour un suivi si vous faites du sport. Voilà, la montre connectée, ce qui sera l'un des cadeaux vraiment incontournable pour ces fêtes de fin d'année, eh bien nous vous en offrons une. Alors pour remporter cette montre connectée Sony, c'est très simple, vous nous envoyez dès maintenant par SMS le nom de votre radio, les trois lettres RMC. Vous envoyez RMC, attention, on ne joue exclusivement que par SMS. Pas la peine de nous appeler au 3216, pas la peine de nous envoyer un mail. Exclusivement par SMS, RMC au 732-16. Et je vous souhaite bonne chance, bien sûr, vous connaîtrez le nom du gagnant tout à l'heure, juste avant 8h. Laetitia, nous allons accueillir maintenant Christophe, qui est le fondateur de l'association Les Babines de l'Espoir.
Oui, bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes un ancien SDF et vous avez créé une association dont le but est d'offrir des croquettes, des produits d'entretien, de soins aux chiens de SDF. Alors racontez-nous d'abord votre histoire. Je crois que vous avez vécu une dizaine d'années dans la rue, en grande partie avec Margot, une chienne.
Voilà, exactement. J'ai suite à la perte de mon premier chien, je voulais plus d'animaux parce que ça faisait vraiment trop mal. Et j'ai eu un ami qui m'a ramené cette petite boule de poil et ben j'ai pas pu dire non, donc je l'ai récupérée. Et depuis 10 ans, elle a fait la route avec moi en tant que SDF.
C'était quoi comme chien ?
Oh, c'est un croisé berger.
D'accord. Ok. Alors pourquoi, vous qui avez vécu et dans la rue et avec un chien, pourquoi un chien est si important pour une personne sans abri ?
Alors il y a deux points essentiels. Le premier, c'est la protection. Parce qu'il faut savoir quand même, quand on dort dehors, bien souvent, on a des jeunes qui sont éméchés des samedis soirs et puis qui aiment bien un peu venir taquiner le pauvre SDF qui dort dehors. Et puis deuxièmement, le plus important, c'est que nous, nos animaux, on les considère comme notre famille, comme notre bébé. Donc c'est vraiment le dernier lien qui nous reste encore avant de sombrer plus bas.
Vous dites que le chien est, oui, le dernier lien pour avant de sombrer plus bas, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour le chien, vous voulez vous en sortir ? Vous vous battez encore ?
Voilà, exactement. C'est vraiment... je vous dis, mon animal, que ce soit un chien ou un chat, il est considéré comme un membre de ma famille. Donc on va tout faire vraiment pour lui. Et c'est ce qui nous retient encore à pas sombrer vraiment plus bas, à pas faire des bêtises, ou à pas faire, à pas faire de grosses bêtises. On va tout faire pour cet animal.
Alors moi, ce que je remarque en tant que vétérinaire et comportementaliste aussi, c'est que la relation entre un SDF et son chien est vraiment fusionnelle. Vous êtes 24 heures, vraiment 24 heures sur 24 ensemble. Et bien souvent, ils n'ont pas de laisse. Le chien est très, très près de son maître. Est-ce que c'est ce que vous avez remarqué ?
Ah oui. De toute façon, les animaux de SDF sont vraiment sociabilisés parce qu'ils sont toujours entourés de plein de monde, d'autres animaux, d'autres chiens. Et on les éduque un minimum, c'est-à-dire que même sans la laisse ou sans collier, que le chien soit toujours à côté de soi, qu'il surveille un petit peu le sac en même temps. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment sociabilisés. Hein.
Alors vous êtes maintenant, vous avez un abri, hein, vous avez réussi à vous en sortir et vous donnez un peu de votre temps pour les autres SDF et leurs chiens. Et tous les mercredis, je crois, à Nantes, vous faites une maraude, vous allez à la rencontre des SDF de leurs chiens. Combien de chiens bénéficient de votre soutien et comment réagissent les SDF quand vous arrivez avec des produits pour les chiens ?
Eh bien, à l'heure actuelle, super bien. Pourquoi ? Parce que beaucoup de SDF de Nantes me connaissent.
Oui.
On pas non plus. Il y a des règles à respecter. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mes bénévoles. C'est que on n'arrive pas.
Christophe, il faudrait peut-être que vous vous rapprochiez. Vous êtes sur un téléphone sans fil, non, là, visiblement. Il faut peut-être vous rapprocher de la base de votre téléphone parce que ça coupe un peu et c'est dommage à la radio, on entend un mot sur deux.
Voilà, je suis là.
Voilà, ne bougez plus, on vous entend. Oui, alors justement, comment réagissent ces personnes à qui vous donnez tous ces présents ?
Eh ben, ils sont étonnés.
Ah bon ?
Oui, parce que c'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'occupe, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de la personne, du SDF.
Oui.
Mais question d'animaux, il n'y a aucune association qui se promène en distribuant des croquettes comme on le fait. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment étonnés qu'on s'occupe pour une fois de leurs animaux.
Et ils vous remercient, je pense que si votre passé des SDF favorise aussi ces relations.
Oui, parce que j'ai une approche quand même qui est autre qu'une personne qui connaît pas ce milieu. Il y a des règles à respecter, c'est ce que j'essaie d'apprendre un petit peu à mes bénévoles, c'est qu'on n'arrive pas comme ça en faisant des grands gestes, on caresse jamais un chien sans demander l'autorisation du maître, on ne donne jamais à manger sans demander l'autorisation au maître. Il y a quelques règles à respecter avant de pouvoir s'approcher d'un SDF.
Évidemment. Christophe, comment peut-on faire pour vous aider ?
Alors, les gens ont juste à taper sur les moteurs de recherche sur Internet.
Les babines de l'espoir.
Voilà. Et directement, ils tomberont sur notre page Facebook.
Oui.
Donc, à partir de ce moment-là, tout est indiqué sur notre page Facebook.
Oui, parce que vous avez une antenne à Nantes et une antenne à Bordeaux.
Exactement. Voilà. À l'heure actuelle, c'est les deux antennes qu'on a. Mais on a eu tellement de demandes qu'on va ouvrir, je pense, une trentaine d'antennes l'année prochaine.
Eh bien, bravo, Christophe.
C'est génial.
Merci pour cette initiative.
Je rappelle le nom de l'association, Les Babines de l'Espoir. Hein. C'est une association qui vient en aide aux SDF qui ont des chiens et donc qui apporte croquettes et produits de soins aux chiens.
Nicolas Vanier sera avec nous dans un instant à l'occasion de cette grande soirée qu'M6 organise en son honneur. On va en parler. Et puis le 32-16, bien sûr, pour joindre Laetitia Barlerin. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h33, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Notez que tout à l'heure, à partir de 8h, c'est un autre univers qu'on découvrira, puisque c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. Jean-Luc, vous le savez, notre expert auto, chaque dimanche sur RMC, entre 8h et 10h, avec notre bon plan auto. Quelles conséquences sur l'assurance lors d'un accident avec un taux d'alcoolémie trop élevé ? Autant vous dire que ça ne doit pas être joli. L'essai de la semaine, ce sera la première voiture à hydrogène vendue en France. Et c'est Hyundai qui signe cette performance. Et puis en deuxième partie de ce rendez-vous auto tout à l'heure entre 9h et 10h, eh bien Jean-Luc nous proposera sa sélection de bouquins pour Noël. On parlera de deux chevaux, de voitures de James Bond, puisque vous le savez, le dernier James Bond est sorti il y a quelques semaines, Spectre, à l'occasion d'un joli bouquin avec toutes les voitures de James Bond sont sorties. Et voilà, on retrouvera quelques idées cadeaux tout à l'heure, donc entre 9h et 10h sur RMC. Mais dans l'immédiat, notre vétérinaire qui est là, 3216 pour joindre notre veto, 3216 ou bien animaux@rmc.fr. On va retrouver Nicolas Vanier dans quelques instants. Nous allons aussi vous sélectionner une petite vidéo LOLCAT, hein, Laetitia, comme d'habitude.
Ou LOLDOG.
Ou LOLDOG, bien évidemment. Vous savez que vous pouvez à tout moment aller sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. C'est véritablement le rendez-vous, le prolongement de l'émission, Laetitia, on peut dire ça comme ça.
Voilà.
Vous pouvez liker la page, bien sûr, poster des photos, regarder les photos des auditeurs qui participent, poser des questions, bien sûr. Hein, nous sélectionnons pas mal de questions issues de la page Facebook. Donc n'hésitez pas, la page c'est vos animaux sur RMC, vous cliquez sur « J'aime ». Laetitia, Nicolas Vanier est avec nous au téléphone. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Et bienvenue sur RMC, Nicolas.
Bienvenue. Alors, votre dernier livre vient de sortir. Ça s'appelle La Grande Course et ça relate votre dernier challenge de l'année 2015 quand même, qui a lieu en février dernier. Vous avez participé à la Yukon Quest, qui est une course de traîneau au Canada, en Alaska, avec les plus grands mushers du monde. Alors, il paraît que c'est la course de l'extrême. Alors, pourquoi se lancer dans une telle aventure ?
Ah bah c'est une sorte de Vendée Globe, on va dire, pour les conducteurs de chiens de traîneau. C'est d'abord une merveilleuse aventure, effectivement, parce que il y a des décors extraordinaires. On traverse les montagnes rocheuses du Yukon, on traverse une grande partie de l'Alaska sur la route qu'ont suivi les chercheurs d'or, dont Jack London. On passe par des endroits mythiques comme Dawson City. Et puis, c'est l'occasion aussi, pour une fois, parce que j'ai traversé, moi, de nombreuses étendues blanches depuis 30 ans, eh bien, de vivre une aventure avec d'autres, de partager avec des amoureux des chiens, avec des amoureux de l'aventure, avec d'autres mushers, quelque chose. Et puis, c'est une course un petit peu mythique. Et comme j'ai un attelage de chiens qui est assez exceptionnel, très endurant, que j'ai entraîné avec cette grande expédition que j'ai fait au travers de la Chine, la Sibérie, la Mongolie. J'avais envie de vivre ça, voilà.
C'est les mêmes qui sont partis. Alors, j'ai vu dans le règlement de la course, on dit que chaque musher part avec 14 chiens et doit finir avec au moins 6 chiens. Quand on lit ce règlement, ça fait peur, parce qu'on a l'impression que vous allez dans un endroit où, voilà, on ne sait pas ce qui va arriver, quoi.
Non, ce qu'il faut voir, c'est que tout, absolument tout, est fait pour que les chiens prennent du plaisir sur ces courses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un chien de traîneau, c'est de le faire courir. Hein. C'est ce qu'il aime, et on partage ça avec lui. Et donc, sur une course comme celle-ci, ce qu'il faut, en fait, c'est gérer, en quelque sorte, le plaisir que les chiens ont de courir, parce que tant qu'ils ont du plaisir, ils vont vite, hein, ils vont bien. Ce qui est le but, bien évidemment, d'une course. Et effectivement, il y a sept checkpoints qui sont des endroits où on retrouve à la fois toute une armée de vétérinaires qui prend soin des chiens et ce qu'on appelle les handlers, qui est une personne obligatoire qu'on doit avoir sur les courses et qui, il y a un chien fatigué ou dont on anticipe un problème qui peut être un problème musculaire, d'élongation ou autre, parce qu'il faut savoir qu'on va à raison de 160, 200 km par 24 heures, donc c'est énorme. Donc à ce moment-là, eh bien, le chien est pris par le handler qui s'en occupe jusqu'à la fin de la course et personne de toute façon sur une course comme celle-ci, où c'est très 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 rare, termine avec 14 chiens, parce que si on a besoin de 14 chiens et éventuellement au départ, au fur et à mesure de l'avancement de la course, on n'a pas besoin de 14 chiens pour aller vite. 8, 9, 10 chiens suffisent. Et donc, on va sélectionner, comme dans une équipe de foot, les 8 ou 9 ou 10 meilleurs pour terminer, un petit peu comme on monte, vous savez, en haut de l'Everest, à quelques-uns. Eh bien, ce sont les meilleurs avec lesquels on termine.
Des températures qui sont incroyables, hein, moins 50, moins 40, moins 50 degrés, des rafales de vent, c'est intenable, non ?
Bah effectivement, on a eu un début de course difficile avec des températures entre moins 50, moins 56 pendant 3 jours. On est dans le Yukon et en Alaska, donc effectivement, ce sont les frimades d'hiver.
Oui.
Maintenant, ce sont des conditions auxquelles à la fois les chiens et les musheurs sont plus qu'habitués. Ce qui est difficile, c'est de se retrouver à la fois dans ces conditions-là et en conditions de course, avec surtout, je dirais, au-delà du froid, au-delà de tout, ce qui est très, 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 très difficile à gérer, c'est le manque de sommeil, parce qu'on dort
2 heures par jour, c'est ça ?
À peu près 2 heures par 24 heures, alors que les chiens, eux, dorment entre 6 et 8 heures, parce que lorsqu'on s'arrête, les chiens, immédiatement s'endorment dans de la paille qu'on a emportée ou préparée pour eux dans les checkpoints. Et puis vous avez déjà, pour donner un petit exemple, 5 à 10 minutes de soins par chien. Donc lorsque vous avez 14 chiens, vous multipliez 10 minutes par 14 et vous avez compris que vous avez peu de temps pour dormir. Et donc, 2 heures de sommeil par 24 heures lorsqu'il fait moins 55 et que toutes les autres heures vous les passez à courir derrière un traîneau ou accroupi dans la neige à s'occuper de vos chiens, eh bien, je vous cache pas qu'au bout de quelques jours, vous êtes, et le mot est faible, bien fatigué.
Alors, justement, on lit que vous avez failli abandonner plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous donnait le courage de repartir ? Est-ce que ce sont justement les chiens ?
J'ai effectivement vécu un début de course qui pouvait pas être plus catastrophique. Même dans mes cauchemars les plus noirs, je pouvais pas imaginer une course pareille au début. Pour finir d'une façon aussi que j'aurais pas pu imaginer, puisque j'étais d'assez loin de l'attelage le plus rapide. ce qui pousse à continuer, ce qui est extraordinaire aussi au-delà des paysages, au-delà de tout ce que j'ai raconté, c'est la fusion, la complicité totale à la, qu'il faut obtenir avec ces chiens pour pouvoir prétendre aller jusqu'au bout d'une course comme celle-ci. Je comparais tout à l'heure cette course à un Vendée Globe, et ben le Vendée Globe, les marins, ils avancent en fonction du vent. Nous, on avance en fonction des chiens. C'est-à-dire qu'aussitôt que les chiens ont envie d'avancer, qu'il y a une belle nuit, une belle température, qu'ils ont la forme, et bien on avance, et puis il faut anticiper le moindre petit moment de baisse de morale, le moindre petit moment de fatigue, il faut leur parler, il faut leur comprendre pour s'arrêter aussitôt qu'ils en ont envie, pour repartir aussitôt qu'on en a envie, et on gère, comme je disais tout à l'heure, ce plaisir. Ça veut dire que dans une course comme celle-ci, il faut connaître, il faut comprendre ces chiens jusqu'au bout des griffes, on vit complètement fusion avec eux, et c'est vraiment, on est dans une espèce de bulle, qui est en plus augmenté avec ce manque de sommeil qui fait que finalement toutes les lumières dans votre cerveau s'éteignent pour ne garder qu'une seule concentration, c'est cette course, vos chiens, vous êtes avec eux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Est-ce que vous avez été, vous qui avez passé pas mal d'années avec vos chiens justement dans des odyssées, etc., est-ce que vous avez été étonné par vos chiens pendant cette course qui est quand même une course de vitesse là?
Mais ils m'ont complètement bluffé parce que bon, j'espérais, je les avais préparés, entraînés depuis qu'ils sont nés, hein, depuis les premiers jours pour être les marathoniens qu'ils sont. Mais de là à pouvoir prétendre aller aussi vite que ces plus grands mûcheurs du monde qui sont des légendes, moi là, petit footballeur que je suis, je me suis retrouvé à côté de Zinedine Zidane, quoi, qui sont ces mûcheurs de légende. Il faut savoir que en Alaska et au Yukon, et pas simplement d'ailleurs dans ces pays-là, ce sont des courses qui sont extrêmement connues, médiatisées. On les connaît pas en France, mais c'est des énormes événements sportifs. Ce sont que des professionnels. Sur cette course, il y avait que des professionnels et un amateur. Nicolas, le petit français.
Et qui a fini 9e quand même.
Alors fini 9e, et puis surtout avec, au-delà de ces deux premiers jours, complètement catastrophiques, parce qu'effectivement les chiens étaient très stressés par cet environnement qu'ils ne connaissaient pas du tout, de course, comme je vous ai dit, très médiatisé, 20 000 personnes au départ, à chaque checkpoint, énormément de médias, des lumières qui s'allument partout, enfin bon, c'est quelque chose de stressant pour des chiens qui ne connaissaient que les grandes étendues blanches et la solitude de ces grands pays d'en haut. Donc ils ont été totalement stressés. Mais à partir du moment où ils ont compris ce qu'était la course, qu'on a commencé à prendre ensemble du plaisir à courir sur cette course, on a été de plus en plus vite. Et oui, là, les chiens m'ont complètement bluffé. Et je dois dire que je crois qu'ils ont encore plus bluffé les autres mûcheurs que moi-même, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout, mais alors pas du tout, à ce que cet attelage soit compétitif. Et il l'a été drôlement, puisque comme je vous dis, j'étais le plus rapide à la fin.
Alors, vous savez que demain, vous avez une soirée spéciale, Nicolas Vanier, quand même, sur M6. Hein.
On va pas rater ça.
Voilà, il y a la diffusion de Belle et Sébastien, le premier opus que vous avez réalisé, puis deux documentaires sur l'Odyssée sauvage en Sibérie, on en a parlé d'ailleurs dans cette émission. Moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, vous faites encore rêver la jeune génération. Comment vous l'expliquez ? Tout le monde parle de Nicolas Vanier, tout le monde vous connaît.
Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que effectivement de faire rêver? Vous parlez de Belle et Sébastien ou alors de ce film L'Odyssée sauvage. Il m'a été souvent amené à projeter ces films devant effectivement des publics familiales avec des enfants qui ont des petites étoiles dans les yeux et qui regardent et bien les chiens ou ce chien de Belle et Sébastien, ce rapport. Voilà, je pense que ma marque fabrique, c'est la nature, c'est la relation entre un homme et des chiens, très souvent, qu'on retrouve bien évidemment à la fois dans Belle et Sébastien et dans ce film de l'Odyssée sauvage. Et ça touche le cœur des enfants, parce que bah, moi, ça me touchait aussi quand j'étais enfant. C'est des rêves d'enfant, finalement, que je réalise encore à 53 ans. Donc, allumer des étoiles comme ça dans les yeux des enfants, faire rêver, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, j'essaye, au-delà de ça aussi, de faire passer un certain nombre de messages qui me paraissent importants dans ce monde où tout est devenu tellement superficiel, dans ce monde qu'on abîme et dont on n'a pas pris assez soin. Donc voilà, c'est quelque chose de formidable que, à mon âge, de pouvoir transmettre à la fois au travers du rêve et puis de transmettre aussi des messages qui me paraissent importants.
Alors justement, on a beaucoup parlé ces derniers temps de climat, de la COP21. Est-ce que vous avez observé dans vos voyages dans le Grand Nord des conséquences des dérèglements climatiques et que pensez-vous de l'accord qui a été signé lors de cette conférence ?
Alors les conséquences du réchauffement climatique, je pourrais vous donner des exemples qui nous emmèneraient jusqu'à demain matin au moins. Donc effectivement, c'est un milieu, le Grand Nord, très fragile et où les augmentations de température sont de l'ordre de 3 ou 4 degrés, avec des conséquences donc absolument dramatiques, la disparition de certains paysages. Pour donner un petit exemple rapide, dans le Grand Nord, tout repose sur un ciment naturel qu'on appelle le permafrost, cette couche de sol gelé en permanence. C'est en train de dégeler. Et donc tout ce qui est dessus, par exemple des forêts, tombe. On appelle ça des forêts ivres. C'est ce genre de paysage ravagé que j'ai pu voir, traverser et qui font effectivement mal au cœur. C'est pourquoi effectivement, depuis quelques années, je suis devenu ce qu'on appelle un petit peu un défenseur de l'environnement. Alors la COP21, bah écoutez, moi je ne fais pas en tout cas partie des dépressifs qui disent que tout est raté, que tout est noir. Je crois que c'est une très bonne base qui a été difficile, très difficile à mettre en place avec 195 pays qui ont des histoires, un présent, un avenir différent. C'est un essai, voilà, qu'il va falloir absolument transformer parce qu'on est sur une, les engagements, en fait, nous emmènent sur une trajectoire de réchauffement, comprise entre 2,5 et 3 degrés, ce qui est beaucoup trop, parce que si on dépasse la barre, des 2 degrés, on va connaître des phénomènes d'emballement dont les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Donc, il va falloir se servir de cette base, qui est sérieuse, pour, effectivement aller encore plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas baisser les bras. Il faut que ceux qui nous écoutent savent que c'est pas simplement les chefs d'État qui décident de l'avenir de la planète. C'est le roi du monde qui décide de la planète. Et le roi du monde, c'est le consommateur. Mmh. Et Dieu sait si, à la veille de Noël, le consommateur peut, par ses actes d'achat, faire preuve un petit peu de responsabilité et favoriser les produits qui sont peu énergivores, qui sont peu coûteux à l'environnement. Pour aller vers ces produits de plus en plus nombreux qui sont respectueux de notre petite planète dont il faut prendre soin parce qu'elle est magnifique.
Merci Nicolas. Alors, prochain projet, c'est une autre course, l'Iditarod, c'est ça?
Voilà, il y a, on va dire, deux Vendée Globe, deux courses, une en février et une au mois de mars, et je prendrai le départ de la prochaine Iditarod l'année prochaine.
Et donc très bientôt sur M6, hein, Laetitia, on
voilà,
disait
demain,
avec une grande
demain
soirée,
soir,
Nicolas
voilà.
Vanier. Merci beaucoup Nicolas.
Merci Nicolas.
Bonne journée à tous.
Merci.
Au revoir.
7h48, on va poursuivre ce rendez-vous animaux, Laetitia, avec quelques questions d'ici 8h. Notre vidéo LOLCAT qui est d'actualité puisque en fait ce sont des animaux qui préparent les cadeaux de Noël.
Oui.
Voilà, c'est très drôle.
C'est très drôle, oui. C'est une belle mise en scène.
Et puis n'hésitez pas, si vous voulez joindre notre vétérinaire, il est encore temps, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr par mail. Laissez-nous votre numéro de téléphone. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h50, le week-end des experts, les animaux. Avant de retrouver la météo, les infos de 8h et puis Jean-Luc Moreau qui sera là pour, vous le savez, 2 heures dédiées à l'automobile. Laetitia, Christian est là au 3216. Bonjour Christian.
Bonjour François, bonjour Laetitia.
Bonjour. Oui, bonjour Christian.
Bonjour, j'ai eu du mal à vous joindre, c'est pas évident.
Ah ben voilà. Ah bah oui. Mais maintenant l'essentiel c'est d'être là.
Voilà, exactement.
Alors vous avez un petit chien.
J'ai un petit problème avec un Jack Russell là, oui. Qui a 8 ans. Et depuis 3-4 jours, bon, je le promène, j'ai 1000 mètres carrés de terrain, mais bon, ça lui suffit pas, bien sûr. Donc, je le promène tous les soirs, quoi, tous les jours. Enfin, à peu près 2 kilomètres.
Oui.
Et depuis 3-4 jours, bon, bah, monsieur a décidé de plus, se balader avec la laisse. Alors, il descend de la voiture, je lui accroche la laisse, et il me saute dessus, il m'aboie dessus, il me barre la route pour pas que je marche. Alors, je lui pose la laisse par terre. Il la prend dans sa gueule, mais comme la laisse, elle est assez grosse, donc elle est assez lourde. Donc après, il la pose et il la tire. Et je reprends la laisse et elle continue.
Et ça, il faisait pas ça avant?
Non. Ça fait 3-4 ans, je l'ai jamais fait. Et
avant,
maintenant, il veut se balader tout seul.
Il veut se balader. Oui, mais si vous le... mais est-ce que vous pouvez le laisser se balader tout seul? Est-ce qu'il a du rappel, ce chien?
Ah oui. Alors ça, là-dessus, il est impeccable. Hein. Le rappel, je lui dis stop, il s'arrête. Ça, il est hyper dressé. Ah ouais.
Et là où vous allez, est-ce que c'est possible de le lâcher?
Ouais. Il y a quelques voitures, des fois, mais bon, disons que c'est tranquillou, le coin. Il hein. y a des bois, voilà.
Moi, je suis pour le fait de lâcher les chiens. Parce que, vous savez, le fait de lâcher, voilà. de pas leur mettre la laisse, c'est quand même très important dans la vie d'un chien. Surtout tous les oui. jours, il faudrait ouais. au moins un moment où, il est, où le chien soit voilà. libre et ouais, mais... aille où il veut. Où il veut. Alors, il faut bien sûr oui. que ça soit dans un endroit sécurisé, dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait ouais. d'accident. Et puis surtout, il faut que le chien ait du rappel, voyez. C'est-à-dire que qui répondent bien à son nom quand vous voulez qu'ils viennent vers vous ou qu'ils s'arrêtent parce qu'il y a un danger, il faut ouais. que voilà qu'il écoute. Et à partir de ce moment-là, on peut lâcher le chien et c'est très ouais. bien pour lui. Alors peut-être que alors, ouais, bah, j'ai l'impression qu'il joue plutôt avec vous là en ce moment là votre chien.
Ah oui, dominant. Il me domine et il prévoit ce que je vais faire. Il me regarde dans les yeux.
Mais il vous connaît par cœur.
Ah ouais, il est incroyable.
Mais moi, je écoutez, si vous allez dans un endroit où vous êtes sûr qu'il y aura du rappel et qu'il n'y a pas, on n'est pas sur une autoroute, lâchez-le ce chien. Vous savez, ouais, c'est une boule de.
Le problème, c'est qu'il est agressif auprès des autres chiens, c'est ça. Et comme ce point, il y a souvent des gens qui se promènent avec des chiens et ils sont pas en laisse. Et lui, il va aller direct dessus. Un coup, il attaque un pitbull quand même. Et heureusement qu'il y avait la laisse, j'ai pu le séparer. Mais autrement, il l'avait pris quand même.
Est-ce que il est agressif avec les autres chiens? Est-ce qu'il est gentil avec les chiennes?
Avec les chiennes, ouais, mais les mâles, non.
Eh ben moi, ce que je vous conseillerais, c'est un implant contraceptif. Pour alors c'est quoi? C'est comme une stérilisation mais qui n'est pas définitive, qui est chimique. C'est un implant qu'on met sous la peau et qui diminue la production d'hormones de spermatozoïdes aussi. Bon, donc il peut plus s'intéresser aux femelles, il va plus s'intéresser aux femelles en chaleur. En revanche, ça peut diminuer son agressivité quand l'agressivité est dirigée vers des mâles. Voyez, et ça va vous permettre justement de lâcher. Il va être moins dans la concurrence avec les autres mâles et il va être beaucoup plus calme pendant les balades et vous pourrez le lâcher comme vous voulez. Moi, je pense que là, ce qu'il veut, c'est plutôt aller voir les autres mâles. C'est pour ça qu'il veut qu'on lâche. Donc voilà, implant contraceptif. Parlez-en à votre vétérinaire. C'est des implants qui durent 6 mois ou 1 an, comme vous voulez.
32-16 pour toutes vos questions animaux, bien sûr. N'hésitez pas à joindre notre vétérinaire Laetitia Barlerin. À noter que nous serons là la semaine prochaine, Laetitia, avec une émission exceptionnelle puisque nous vous proposerons quelques-uns des meilleurs moments de cette année.
Oui.
2015.
En deuxième partie.
Alors première heure, on répondra à toutes vos questions, hein, comme d'habitude. Et puis en deuxième partie, on retrouvera quelques-uns des meilleurs moments avec Brigitte Bardot et puis d'autres invités exceptionnels. Laetitia, avant de retrouver notre vidéo LOLcat de ce dimanche matin, il est temps de jouer avec nous.
Le Grand Noël RMC, spécial week-end avec cdiscount.com.
Vous le savez, RMC vous offre tous les jours plein de cadeaux sympas. Et on vous offre aujourd'hui une montre connectée, vous le savez, une belle montre connectée de marque Sony. C'est génial ce genre d'appareil, vous la connectez à votre smartphone et vous avez le prolongement en fait de votre smartphone au poignet, par exemple vos SMS, par exemple vos notifications Facebook, etc. C'est un cadeau très sympa que nous vous avons offert et vous avez été très nombreux à jouer avec nous en nous envoyant RMC par SMS au 732-16 et on félicite Véronique qui habite Vienne dans l'Isère. Véronique a joué avec nous tout à l'heure. Elle a été tirée au sort. Elle va recevoir donc cette montre d'ici quelques jours. Sachez aussi qu'il y aura un autre cadeau sympa. Tout à l'heure, je vous offrirai un PC portable 11 pouces entre 9h et 10h. Donc, restez avec nous. Laetitia, notre petite vidéo dans le cadre de ce dimanche matin. Il n'y a pas que le Père Noël qui prépare les fêtes, il y a aussi ses assistants.
J'étais en train de me dire que le cadeau de Noël de Christian à son chien, à son Jack Russell, ça va être un implant contraceptif.
Voilà, c'est ça.
Je viens de m'en apercevoir.
Eh bien voilà. Et donc on a sélectionné pour vous une vidéo très très drôle de chiens qui sont en train de préparer les cadeaux de Noël.
Et voilà, alors vous savez, on a pas mal de vidéos, vous savez, où le chien est habillé et il a les mains
donc
de son maître.
Donc la tête, c'est le chien. Mais ses mains, c'est des vraies mains en fait.
Voilà, et c'est filmé, c'est super, c'est vraiment super.
Voilà, cette vidéo LOLcat vous attend sur la page Facebook Vos Animaux sur RMC. Laetitia, très bonne fête de Noël.
Oui,
et on sera là dimanche prochain.
Très bon Noël à tous, vraiment passez de très bonnes fêtes. Et nous vous donnons rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, dimanche prochain, comme tous les dimanches. Et je vous embrasse très 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 fort.
La météo, les infos et Jean-Luc Moreau, à tout de suite.